Alors avant qu'il n'y ait un propos conclusif par M. Éric Louka, ce secrétaire général du ministère, trois chercheurs nous proposent une première conclusion sur ces questions d'enjeux, de sources et de méthodes de la recherche sur la justice. Madame Cerverin, vous avez beaucoup travaillé avec, avec le ministère de la Justice. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez notamment travaillé durant ces dernières années sur le monde du travail, sur le droit du travail. Vous avez exploré cette question dans un rapport qui a été réalisé avec le soutien de la mission Recherche, Droit et Justice, sous l'angle des questions de discrimination et d'égalité à partir d'un échantillon d'arrêts extraits de la base de données Jurica. Alors je le mentionne parce que ça fait partie des outils de recherche sur le droit qui existe aujourd'hui, avec l'ensemble des arrêts civils des cours d'appel qui sont désormais stockés sur cette base de données. Je vous laisse la parole sur ces questions d'enjeux, méthodes et sources sur la recherche dans le domaine de la justice.
Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler méthodes à la fin, à la toute fin, à un moment où tout le monde est littéralement épuisé, en plus. Mais bon, après tout, c'est mieux que rien. Et ça a failli être rien, si je me souviens bien. En tout cas, en ce qui me concerne. Alors, je vais être très rapide et bon, je suis venue sans rien en fait. Hein. C'est beaucoup mieux comme ça. Il me semble que sur les questions sur lesquelles on travaille, alors le on, parce qu'ici il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé, je travaille encore des services de la chancellerie, mais la question des méthodes, évidemment, est dépendante de la question des sources d'abord. Et l'histoire longue des sources, c'est-à-dire des bases à partir desquelles se font les recherches, hein, soit ce soit des sources produites par l'administration en sous-produit de gestion, comme ça a été l'histoire du répertoire général civil, ou d'autres enquêtes, hein, des sources d'enquête, soit celles qu'on fait soi-même, hein, celles qu'on constitue soi-même, et puis des sources nouvelles, comme des bases de données exhaustives de décisions qui sont arrivées il y a peu de temps, puisque c'est seulement depuis 2008 que Jurica a sa date de naissance, et depuis 2009 seulement qu'on l'a ouvert aux chercheurs. Donc c'est pour ça que je distinguerais bien la question des sources et la question des méthodes. Alors, sur la question des sources, il y a une participation, un type de participation de chercheurs et d'universitaires d'ailleurs, qui est d'une autre nature que celle simplement d'aller faire de l'observation ou d'aller utiliser des données existantes. C'est d'être associé à un moment donné, et c'est des moments de carrière, à l'organisation, à la production de l'appareil lui-même, c'est-à-dire une forme d'association à la construction de ce que seront les données qu'on utilisera plus tard. Dans l'histoire longue, d'ailleurs, on a oublié, mais dans les années 60, Carbonnier avait joué ce rôle-là. Les universitaires jouaient bien ce rôle-là. Il y avait Carbonnier, il y avait Léauté. Il y avait effectivement tous ceux qui s'intéressaient aux premières enquêtes, les enquêtes divorces qui ont précédé la mise en place du répertoire civil en 81. Donc cette association, qui était une association étroite dans la production même de données et aussi dans la production des systèmes permanents. Alors mon histoire à moi, c'est d'avoir été associée dès 85 à la production de certains éléments de ces systèmes qui sont assez particuliers, qui sont les nomenclatures, hein, une nomenclature d'affaires qui était appelée de leur vœu. Enfin, il y a une histoire très longue et que évidemment je ne raconterai pas ici, mais qui est assez intéressante. C'est la réflexion qui a été menée pour construire un outil pour plus tard, c'est-à-dire d'être associé en tant que chercheur qui pose la question et qui aide. Alors il y a eu des groupes de travail qui ont été constitués, pluridisciplinaires, il y avait à la fois des magistrats, il y a eu beaucoup d'universitaires, ce qui est devenu rare maintenant, hein, mais ils étaient très présents, et des nomenclatures se sont constituées. Alors certains souffrent encore dessus, parce qu'il y a la nomenclature des affaires civiles, mais la nomenclature des décisions, et ensuite les nomenclatures se sont multipliées. Ces nomenclatures, ce sont celles qui constituent les classes dans lesquelles les affaires avec définition d'unité de compte sont rangées, Et ensuite, ce que vous voyez publié ici, là, dans l'annuaire, où toutes les bases de données sont constituées à l'aide de ces grilles de classement. Je ne sais plus qui évoquait ce matin Alain Desrosières, je crois que c'est la directrice des affaires civiles. J'ai une très bonne référence, puisque Alain Desrosières avait passé toute sa vie à se préoccuper des opérations de nomenclature, de classement, et la manière dont ces opérations constituent et créent le réel. Donc, ces associations-là, pour moi, c'est une association recherche, et alors, ministère de la Justice, mais tout autre opérateur, c'est pas forcément le ministère de la Justice. Je fais avec la DARES sur des enquêtes, donc ça se fait avec d'autres opérateurs. Mais ce temps-là, hein, de participation à l'outil me paraît essentiel. C'est jamais du temps perdu, parce qu'ensuite, on sait traiter des données, et donc, je prends les bases importantes qui sont celles, alors pour parler que du civil, des bases issues du répertoire général civil. Et ces bases-là sont difficiles d'accès à cause justement du caractère très construit et très technique de leur composition. Et la première chose qu'on fait quand on commence à travailler sur ce genre de données, eh bien, c'est passer un temps assez considérable. Un de mes collègues qui était là à la FE, mais il est parti, Emmanuel Jelan, quand il a voulu travailler sur l'activité des tribunaux, eh bien, il a eu besoin de rentrer dans les nomenclatures avec des explications, voilà comment on classe. Voilà. Donc ce temps d'association, il me paraît premier pour un certain type de corpus. Alors, de sources. Ensuite, évidemment, il y a des sources, celles qu'on se fabrique soi-même, avec les enquêtes, avec les observations, et qui requièrent, d'ailleurs, chacune requiert des méthodes après d'exploitation qui sont de nature extrêmement variée. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de me demander pourquoi il y a un tel succès des méthodes d'observation de type ethnographique, ethnologique, et souvent d'ailleurs qui ne mobilisent pas les données existant par ailleurs, qui permettent d'avoir le cadrage, et sur une très longue période. Hein, maintenant, enfin, je veux dire, le travail se fait sur des séries, sur 20 ans, 30 ans, même au-delà. Il y avait eu la base Davido dans son temps, qui avait été faite pour exploiter au pénal, de rassembler toutes les séries statistiques. Mais il y a une sorte de tension, me semble-t-il, entre le temps long des appareils de construction, d'observation, d'observatoire, et puis peut-être un temps qui est plus situé de l'observation, qui s'inscrit dans un moment et dans des cadres, avec un outillage, d'ailleurs avec des méthodes qui sont de nature différente. Alors, l'autre source, et je disais celle-là, elle est plus récente, parce que son accès est récent, donc les bases de données des décisions, des arrêts, de l'ensemble des arrêts des cours d'appel, un peu plus de 200 000 arrêts par an, qui remontent à 2007, et qui maintenant constituent une base extraordinaire, au moment où on parle d'ailleurs, des arrêts arrivent sur cette base. Alors, dans son histoire, l'histoire est assez compliquée, parce que cette base, elle n'est pas dans la tradition juridique française, qui a toujours fait des sélections. Les bases de données ont toujours été des bases sélectives, et tout d'un coup est arrivé dans un contexte historique ça a été assez court, la possibilité de récupérer ces données, et donc d'avoir une base extraordinaire qui au départ était uniquement usage interne, et que grâce d'ailleurs à l'intervention de magistrats, que je salue là, parce que même s'ils ne sont pas là, mais qui ont compris l'intérêt de cet accès, comme la Cabaratz, qui est maintenant président de la Chambre sociale, et qui à l'époque où il était au service de documentation d'études et du rapport, avait milité pour qu'il y ait un accès de ces bases de données à la recherche. Et à partir de là, commence à se déclencher, alors on passe des conventions, c'est très formalisé parce qu'il y a des problèmes d'anonymat, etc. Et on commence à utiliser une base qui n'existait pas du tout parce qu'elle a une particularité, c'est une base de texte brut, sans codage, sans classement, sans rien, et on cherche un texte intégral. Donc ça permet de faire des recherches de toute nature, si on parle de méthode, on peut aussi bien faire comme on a fait sur l'histoire de discrimination et d'égalité, on a travaillé avec une recherche, un sondage, et ensuite constitution de grilles d'analyse à partir desquelles on fait des stats, on a fait aussi des analyses multivariées à partir de là, mais on pourrait aussi faire de la statistique textuelle, ce qui est avec des logiciels qui existent déjà, qu'on ne mobilise pas encore, mais qui mériteraient tout à fait de l'air, parce que c'est une base qui, de ce point de vue-là, est unique en son genre. Il n'y a pas d'autres bases de texte de décision qui fonctionnent. Et elle a été utilisée. Alors, elle a été utilisée. Donc, nous, on a commencé avec. Enfin, on n'a pas commencé parce qu'on a été deux à travailler en même temps dessus, la chancellerie, à utiliser la base pour faire les premières exploitations concernant la réflexion sur les barèmes de pension. Et effectivement, cette démarche-là, hein, qui était vraiment une démarche d'enquête et qui mobilise souvent de nouvelles méthodes. Enfin, la question, c'est aussi c'est que effectivement, il faut inventer des méthodes et elles sont en train d'évoluer là-dessus sur la manière de les traiter. Ça, c'est le point. Donc, vous voyez, les sources commandent aussi une innovation dans les méthodes. Alors, on peut même faire, hein, je sais que certaines sources de décisions qui n'étaient pas... qui était sélectionné avec un système compliqué de circulaires, on appelait des décisions, on travaillait dessus. C'est en gros ce qu'on fait encore quand on n'a pas les décisions du premier degré, donc il faut bien passer par là. À ce moment-là, il y a un travail qui se fait derrière de collecte, mais c'est vrai que ce travail-là mériterait d'être affiné et caractérisé, hein, parce qu'on les présente quand on présente les résultats de recherche, mais voilà, on a fait... en fonction de ce qui existait, de ce qu'on pouvait avoir. Et il y a effectivement tout le problème de l'échantillonnage, des questions très importantes, pour ensuite pouvoir tirer des éléments et des réflexions par rapport à ça. Entre sources et méthodes, hein, c'est les méthodes qui sont en train de se développer. L'autre point que pose l'ensemble de ces sources et de ces méthodes, c'est de savoir à qui elles sont adressées, c'est-à-dire qui nous lit finalement. Bon, évidemment, ici, on a l'impression de répondre à la demande, comme on dit. Moi, j'ai toujours pensé comme chercheur que les meilleures questions, c'était celles qu'on ne nous posait pas. Parce que à trop répondre aux questions ciblées, on ne sait plus très bien ce qu'on est capable en fait de penser. Alors, sauf à dire que les chercheurs sont des mauvais coucheurs et qu'ils passent leur temps à reformuler les questions, mais il y a des pans entiers hein, de la justice dont il a été question aujourd'hui qui sont absents, c'est-à-dire qui sont inconnus, mais qui ont certains destinataires. Alors ici, il y a Maud Guillonneau avec qui je commets des publications maintenant régulières. Avant, c'était Brigitte Munoz-Pérez, hein, donc il y a toute une tradition. Tout ce qu'on a fait sur les prud'hommes, dont il n'y a pas eu un mot ici, c'est 20 ans de travaux, 30 ans même, hein, parce qu'on est remonté, on a travaillé aussi auprès de la Cour de cassation, mais qui a son public. Son public, c'est tous ceux qui travaillent sur la justice du travail, qu'il s'agisse des conseillers prud'hommes, qu'il s'agisse des conseillers de cour d'appel sont très intéressés, et de la cour de cassation, la chambre sociale, qui depuis toujours est très intéressée par les travaux sur les contentieux, qui ne sont pas des questions, ce n'est pas des objets qui sont donnés à eux. Hein, il faut leur apporter, puisque eux connaissent la jurisprudence, mais pas le contentieux. Et j'ai toujours été frappée de voir l'écho extrêmement favorable et la réutilisation que tous ces magistrats professionnels font des travaux. Mais ils les suivent, dès qu'on dit, alors les dernières statistiques, au fait, 2013, on en est où? Et d'ailleurs, je viens d'embêter Maud Guillonneau en lui demandant, alors, la série, il me faut 2013. Bon. Donc, c'est question des interlocuteurs, c'est pas forcément dans ce genre d'endroit qu'il sera question de ça, mais lorsqu'il y aura des thématiques spécialisées. Et le fait que des données régulières, statistiques, alors qui sont en exploitation des systèmes hein, de base, plus des enquêtes, plus du travail sur décision, plus du travail sur d'autres bases comme celle du Jurica, c'est aussi cette question, cette forme d'association qui est importante. Il y a une forme de spécialisation. Et je pense que ici, souvent, c'est des gens qui se sont spécialisés sur ces sujets-là, mais qui n'ont pas toujours, un cadre. Enfin, la justice prud'homale est un vrai problème. Elle a un problème d'invisibilité dès qu'on parle de justice. Et ici, c'est assez révélateur du fait que, alors c'est comme les tutelles, hein, il y a heureusement beaucoup de gens qui travaillent sur les tutelles, ça intéresse plein de gens, mais ici, la justice des tutelles, et pourtant celle-ci, Dieu sait si elle pose des problèmes, et qu'il faut suivre avec le vieillissement de la population, travailler avec démographes, je terminerai sur ce point-là, parce que dans toutes ces données, quelles qu'elles soient issues des systèmes permanents, qu'elles soient issues des enquêtes qu'on fait, qu'elles soient issues de l'exploitation des bases, donc avec des produits, des résultats d'exploitation des bases, elles ne valent que lorsqu'elles sont mises en relation avec d'autres données statistiques et d'autres données. Je me souviens que pour ce qui concerne le litige du travail, on a encore des discussions très importantes sur la question des taux de recours, hein, entre les taux de contestation. Et donc, c'est avec d'autres données, hein, les données de Pôle emploi, enfin, à l'époque, des données provenant de la DARES, hein, et ce croisement des données. Alors, on avait l'habitude en matière de divorce, parce que les premières enquêtes de divorce, c'était l'INSEE qui les faisait. Et donc, il y a eu d'emblée une présence et une maîtrise de l'appareil statistique sur les productions de données. Mais ensuite, ça s'est un peu perdu, et c'est vrai qu'il faut chercher ces confrontations de données, ces confrontations de sources. Hein, actuellement, on a une discussion avec des collègues entre les sources de l'enquête réponse de la DARES qui a introduit une notion contentieuse et puis les séries contentieuses et comment on articule tout ça. Et ça, c'est aussi un travail de recherche, c'est-à-dire avoir d'autres interlocuteurs que simplement ceux qui sont des commanditaires hein, de nos travaux à un moment donné. Voilà, je crois que j'ai dépassé, explosé complètement mon compteur, mais je vous remercie de votre attention.
Il y a effectivement de multiples thématiques et de multiples contentieux qui pourront faire l'objet d'états des savoirs ultérieurs, ainsi que vous le mentionnez. Olivier Kella, vous êtes professeur de droit public, directeur des études à l'EHESS, où vous animez un séminaire intitulé « Théorie de la norme juridique et de son application ». Vous êtes également co-directeur de la toute nouvelle revue intitulée « Grief », qui était présentée là-haut pour ceux qui ont pu passer un moment près des stands et qui est également visible dans les vitrines de l'EHESS. Nouvelle revue coéditée avec les éditions d'Adlouze. Je vous laisse la parole pour des observations sur ces thématiques de recherche sur la justice et sur le droit.
Je vous remercie beaucoup. Écoutez, je suis à plus d'un titre très embarrassé parce que, bien plus encore que Didier Fassin, je ne sais absolument pas pourquoi je suis là, n'ayant absolument jamais de ma vie fait le moindre travail sur la justice. Et je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas historien, je suis juriste. Et finalement, c'est un peu l'Iroquois d'aujourd'hui. Et il se trouve que je suis simplement un juriste à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors c'est peut-être uniquement du fait de cette position que je pourrais essayer, de cette position extraordinairement complexe et sur laquelle je voudrais m'expliquer deux minutes, que je pourrais éventuellement tenir un propos général de type dissertation qu'on fait en fin de colloque et peut-être qui va vous ennuyer, je suis désolé, mais que je ne peux pas faire mieux puisque je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. J'en profite aussi pour faire de la publicité pour la revue Grief, effectivement, que je vous incite beaucoup à acheter et qui se trouve être une des réponses possibles à la question posée, puisqu'elle a pour objectif de tâcher, en gros, d'établir le contact entre des mondes qui vivent assez séparément, le monde des juristes et des sciences sociales, et puis au sein du monde des juristes, le monde des universitaires d'un côté, celui des praticiens de l'autre, faire que la possibilité de discuter ensemble et d'avoir des échanges se conçoivent, finalement, appelle un certain nombre de conditions sur lesquelles je voudrais juste apporter deux, trois éléments de réflexion. Premièrement, évidemment, depuis le début, ça nous taraude tous. Ça a commencé par une citation de Bourdieu en début de séance. Il y a le problème de l'indépendance du chercheur. Lorsqu'il est convoqué à effectuer un travail dans le cadre d'une commande, qui soit passée par un ministère de la Justice ou par quelque autre ministère que ce soit, c'est toujours l'État qui est derrière. L'État avec, évidemment, ce qu'il véhicule d'autorité et qui se présente donc assez difficilement d'un point de vue épistémologique dans ses rapports avec les représentants de la vérité ou en tout cas de ceux qui se dévouent au dévoilement de la vérité que sont les chercheurs. C'est une difficulté qui, à mon avis, n'a jamais vraiment été vraiment. Il n'y a aucune espèce de solution possible. On n'arrête pas de se poser la question de savoir si on peut répondre aux questions qui sont posées sans reformuler les questions. Et on peut difficilement entendre un représentant du ministère de la Justice avoir des scrupules, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, en disant « Bon, excusez-nous, mais on a un peu envie de vous faire faire des choses qui nous soient utiles. » Et on a effectivement eu, dans la matinée en particulier, des indications assez précises sur le type d'efficacité que les représentants de l'État requièrent de la part des chercheurs. En particulier, dans l'idée de faciliter le fonctionnement du service public de la justice, il y a l'idée, par exemple, de rendre la justice plus rapide, enfin que le fonctionnement de la justice soit plus rapide. La question de la vitesse, de la rapidité était abordée ce matin, de la temporalité, comme étant une sorte d'évidence. Il y a quand même eu un questionnement sur le point de savoir si finalement il était si certain qu'il était bon en soi d'accélérer le rythme des décisions. Mais dans la commande que l'État passe, finalement, il y a une sorte de présupposé qui appelle assez peu de discussion. J'ai à plusieurs reprises noté des points de ce genre qui, en fait, mériteraient d'être discutés. Notamment, il y a eu un moment où il était question, évidemment, en application du principe d'égalité entre les justiciables, l'idée qu'il était bon de réduire au maximum la part d'arbitraire dans le pouvoir du discrétionnaire du juge, de manière à ce qu'on puisse s'assurer que, sur des cas semblables, les juges puissent juger de la même façon. Mais là encore, la question du pouvoir discrétionnaire du juge et la part d'arbitraire qu'il peut y avoir dans la prise de décision judiciaire est quelque chose sur lequel il est possible que les sciences sociales en général, ou plus particulièrement certaines disciplines parmi elles, aient un mot qui puisse être décourageant vis-à-vis d'une telle attente de la part des pouvoirs publics. Premier élément de complexité. Deuxième élément de complexité, c'est que le monde du droit lui-même est un monde très très curieux, parce que il y a au sein du monde du droit, et d'ailleurs précisément tous les juristes professionnels, tous les magistrats, tous les avocats, tous les notaires, tous les huissiers sont passés par là, ont été formés par des chercheurs et des enseignants-chercheurs des facultés de droit. Or, une faculté de droit, c'est un lieu qui n'est pas tout à fait semblable à l'école des hautes études en sciences sociales, puisque bien qu'on y entretienne le mythe de l'indépendance du professeur d'université, qui est lui-même alimenté par les magistrats, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui a dégagé le principe d'indépendance des professeurs d'université, et puisqu'on est à l'université dans une faculté de droit, évidemment on vit avec cette idée qu'il est indépendant. La seule chose, c'est que quand on se penche sur la manière dont fonctionne vraiment une faculté de droit, on est étonné de s'apercevoir que, par exemple, la voie ordinaire d'accès à la profession de professeur de droit, qui est le concours d'agrégation externe, comporte dans son jury, quand il s'agit de l'agrégation de droit public, immanquablement siège dans un jury d'agrégation de droit public, qui donc recrute les professeurs de droit public, siège immanquablement un représentant du Conseil d'État, c'est-à-dire un membre de la juridiction suprême de l'ordre administratif, et pour ce qui est de l'agrégation de droit privé, systématiquement un représentant de la Cour de cassation. Donc, il va de soi que les professeurs de droit privé comme ceux de droit public vivent une indépendance singulière, puisqu'au moment où ils sont appelés à apporter la démonstration de leurs compétences professionnelles, ils sont évalués par des membres des juridictions qui disent le droit. De même, il y a quelque chose de singulier qui caractérise les facultés de droit, c'est qu'on y fait des sciences sociales. On y fait de l'histoire du droit, on y fait de la sociologie du droit, de l'anthropologie du droit, de la philosophie du droit, de la théorie du droit. Mais ce qui singularise cet enseignement des regards supposés être extérieurs au droit lui-même, au discours du droit lui-même, au discours normatif du droit, ce langage descriptif qui a pour objet le langage prescriptif du droit, ce métalangage pour parler de manière comme un théoricien du droit, par exemple de Nanterre, c'est un langage qui est pris en charge par la faculté de droit elle-même, c'est-à-dire ce sont les juristes qui font de la sociologie du droit, de l'histoire du droit, il y a même une agrégation d'histoire du droit, de l'anthropologie, de la sociologie du droit. Ce ne sont pas les sociologues de l'extérieur, ni les anthropologues, ni les historiens, etc. Généralement, à l'extérieur des facultés de droit, ça ne se soupçonne pas tellement. Sauf Yura, qui est très, très, très informé, mais la plupart des gens, notamment à l'école, ne soupçonnent pas qu'on fait autant de sciences sociales dans les facultés de droit, mais assurées par les juristes eux-mêmes. Et moi, depuis que je suis un transfuge et que je suis passé de la faculté de droit à l'école des études en sciences sociales, je passe beaucoup de temps à expliquer à mes ex-collègues des facultés de droit ce que c'est que les sciences sociales, pour le peu que je puisse en connaître, puisque je ne suis justement pas un représentant des sciences sociales, mais je passe encore plus de temps à tâcher d'expliquer à mes collègues de l'école des hautes études en sciences sociales, qui sont très nombreux à s'intéresser au droit, et avec lesquels nous travaillons collégialement, collectivement, mais nous sommes très très peu à être issus nous-mêmes des facultés de droit. Enfin, d'ailleurs, pour être très, très précis, à l'EHEC, je suis rigoureusement le seul ex-professeur de droit issu des facultés de droit, et finalement, français en tout cas. Et justement, la grande difficulté, c'est d'expliquer quelles sont toutes ces particularités du droit qui, en gros, est travaillée de manière constante, en permanence, par le discours d'autorité de l'État et de la tutelle qu'il exerce sur tous ceux qui ont vocation à discourir sur le droit, quelque chose sur lequel les observateurs de l'extérieur, comme à l'école des hautes études, se représentent assez peu, finalement, l'importance de cette position particulière. Donc, dans ces conditions, comment concevoir une méthode qui soit vraiment une méthode au sens scientifique du terme, une méthodologie qui permette de tenir un discours extérieur et qui permette de, dans une certaine mesure, entretenir un rapport d'égalité avec le commanditaire qu'est l'administration de la justice. Ma réponse est très simple, c'est que c'est rigoureusement impossible. Je pense que c'est une pure et simple illusion. Il est absolument vain de chercher à vouloir sortir du discours du droit lui-même sur lui-même, du discours de l'État sur lui-même, et que le seul moyen d'y parvenir, enfin de parvenir à faire quelque chose d'éventuellement fructueux, et qui plus est, qui apporte satisfaction à l'ensemble des disciplines dont nous avons parlé, sociologie, histoire, parce qu'il est très difficile de faire travailler tous ces gens-là ensemble. En général, un historien, enfin, du moins un sociologue et un philosophe, ça a quand même un petit peu de mal à s'entendre, parce que le sociologue aime beaucoup les questions de fait, le juriste, le philosophe, beaucoup plus les questions de droit. Et finalement, le seul moyen d'y parvenir, et je conclus en 30 secondes, parce qu'à vrai dire... je pourrais y passer des heures dans la mesure où il faudrait donner des illustrations concrètes pour apporter la démonstration de la pertinence de la méthode que je promeux, mais je veux juste dire d'un mot que ce serait la méthode casuistique. La méthode casuistique, tout simplement parce que c'est ce qui permet, en se saisissant d'un cas, d'abord de finalement se pencher sur la seule chose qui compte en droit, c'est son application au cas, la saisie des faits particuliers par les règles, chose qui est au cœur de la question de savoir s'il est possible ou non de lier le pouvoir du juge à l'autorité de la loi, s'il est possible de concevoir que le juge puisse disposer d'un certain marge de manœuvre, d'un certain pouvoir discrétionnaire, toutes ces questions dont on a parlé ce matin. Ben, c'est quelque chose qu'on peut observer et sur lequel on peut faire une certaine évaluation si on rentre dans le cas comme le fait le juge. Autrement dit, excusez-moi, parce que c'est d'une extraordinaire, pour tous les juristes présents dans la salle, d'une extraordinaire trivialité, ce que je vais dire. Mais enfin, en gros, ça consiste à faire du commentaire d'arrêt. Hein. Exercice des facultés de droit par lequel tout le monde est obligé de passer pour faire son droit et pour véritablement comprendre ce que c'est que le droit. Et je crois que le commentaire d'arrêt est quelque chose qui est dans un premier temps tout à fait requis pour rentrer d'un point de vue herméneutique, du point de vue même du droit sur lui-même, de manière à le connaître de l'intérieur et avoir d'ailleurs un minimum de connaissances techniques qui permettent aussi de savoir de quoi on parle quand on observe le droit en action. Mais après ce premier temps, il y a peut-être un deuxième temps critique qui peut s'exercer grâce aux sciences sociales, enfin quand je dis sciences sociales, aux sciences humaines et sociales. Moi, de mon côté, c'est essentiellement la philosophie que je pense qu'il est possible de recourir pour avoir une réflexion fructueuse sur le discours que le droit tient sur lui-même, de manière à tout simplement prendre ses distances à l'égard des dogmes que le droit produit pour susciter l'adhésion à ces décisions. Et de pouvoir prendre du recul pour évaluer la pertinence de ces dogmes, pour tâcher de les déconstruire et éventuellement de susciter une critique qui peut avoir un effet de rugosité ou pas sur les juristes praticiens, est quelque chose qui me semble plus facile à susciter, non seulement parce qu'il est possible de faire une rencontre entre le discours extérieur et le discours intérieur du droit, les gens se rencontrent, mais aussi parce que c'est le seul moyen de faire que des disciplines différentes au sein du monde des sciences sociales puissent véritablement converger vers un point d'observation commun et puissent donc avoir des véritables échanges. Voilà, j'ai dit des choses totalement abstraites et complètement, à mon avis, complètement brumeuses. Je vous prie de m'en excuser. Et j'aurais aimé évidemment pouvoir vous en faire une illustration par l'analyse d'un cas. C'était ce... Alors, je fais ça effectivement le 20 juin avec l'affaire Dieudonné, mais naturellement, c'était j'avais été invité à parler de la méthode casuistique. J'avais répondu à Liora que c'était très bien de le demander en 10 minutes, mais que comme pour parler de la méthode casuistique, il fallait analyser un cas, que ça prenait au moins une heure, évidemment. Donc, c'était un exercice impossible dès le départ. Je vous remercie.
Pour cet éclairage sur la construction du droit, qui effectivement n'a pas été au centre des débats aujourd'hui, mais qui est un des éléments qui n'est pas absent d'ailleurs du programme pluriannuel d'études et de recherche, mais de façon sans doute effectivement moins abstraite dans notre approche de praticien. Liora Israël, vous êtes sociologue du droit, vous êtes maîtresse de conférences dans cette maison, vous êtes également directrice adjointe du centre Maurice Alvax, et vous avez beaucoup travaillé sur les usages militants du droit, sur la formation en droit des élites, et Ces derniers temps, vous vous intéressez au traitement judiciaire des discriminations.
Merci. Alors, je vous rassure, je vais faire très, très court. Je voulais peut-être juste dire, à la fin de cette très riche journée d'échange et de discussion, qu'elle a peut-être rempli son office déjà en montrant qu'il n'y a pas qu'une manière de faire de la recherche sur la justice, qu'il y en a beaucoup, à la fois parce qu'il y a beaucoup de terrain, beaucoup de directions du ministère, beaucoup de lieux à investiguer et aussi beaucoup de disciplines des sciences sociales qui s'y intéressent, avec même à l'intérieur des disciplines de multiples angles. Alors il y a des sources variées, il y a les sources judiciaires, des historiens qui sont peut-être plus classiques, même si on peut les lire de multiples manières. Il y a des sources nouvelles, une invention méthodologique dont parlait Evelyne, rendue possible notamment par l'accumulation des données statistiques. Il y a un éventail donc infini, renouvelé de problématiques développées par les chercheurs. Néanmoins, je crois qu'il faut quand même rappeler que faire de la recherche sur la justice en France, se saisir du droit comme objet, n'a rien d'évident pour un chercheur ou une chercheuse en sciences sociales, notamment pour les raisons dont vient de parler Olivier. En effet, cet objet particulier qu'est le droit a longtemps semblé poser des questions spécifiques, particulières, relatives aux manières adéquates de saisir son objet, de choisir les méthodes s'agissant du droit ou de la justice. Les plus célèbres sociologues qui sont intéressés au droit, comme par exemple Pierre Bourdieu ou Bruno Latour, se sont ainsi positionnés par rapport à une alternative considérée comme classique et irréductible entre une approche interne du droit, celle des juristes, relevant principalement de la forme doctrine ou de différents exercices comme le commentaire d'arrêt, et une posture externe d'objectivation qui serait celle des sciences sociales et qui, du même coup, serait suspecte d'être purement extérieure au droit et à sa logique. La proposition que je vais très rapidement développer ici consiste à défendre l'idée d'un dépassement possible de l'alternative à travers un plein investissement des méthodes de sciences sociales pour appréhender le droit et la justice. En effet, à l'opposition classique entre une approche de juriste centrée notamment sur l'analyse des décisions et les travaux de chercheurs en sciences sociales, et spécialement des sociologues, parfois assignés à une approche sociale de relation à la justice et à ses effets, voire à une simple photographie de la vie sociale au service des acteurs de la justice, il est possible d'opposer un renouvellement récent des études empiriques qui ont pris, depuis une diversité de méthodes et de perspectives, la justice et le droit pour objet. Ce tournant empirique de l'analyse du droit et de la justice est encore aujourd'hui largement absent des facultés de droit françaises et davantage porté par les sciences sociales. Pourtant, ailleurs, en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, au Brésil, les travaux sur le droit en action, en particulier s'agissant du fonctionnement de la justice, sont présents dans les facultés de droit comme dans les laboratoires de sciences sociales. Il est en effet clair que la justice ne peut être appréhendée du seul point de vue de ses principes et de ses décisions. Elle est aussi une institution, une administration, une organisation. Elle se décline en collectif de travail, s'inscrit dans des territoires, interagit avec des populations dont les caractéristiques sociales importent, règle les litiges les plus intimes, punit les infractions ou les crimes, protège les enfants, régule les relations familiales, implique des auxiliaires de justice comme les avocats dont les compétences, les profils, les revendications transforment son fonctionnement même. Cet ancrage de la justice dans l'épaisseur de la société, des conflits du travail aux conflits familiaux, et la manière dont elle combine dans son fonctionnement le plus quotidien comme le plus exceptionnel, le droit avec le social, la norme avec le vivant, peut se saisir dans la trame de ses dossiers, les récits collectés auprès de ses acteurs, les traces laissées dans les représentations culturelles. Dans cet éventail infini, une méthode ou une manière de faire a sans doute gagné du crédit ces dernières années, ouvrant à de nouvelles manières de démêler cet écheveau et de donner à voir les logiques et les biais de la justice de ses acteurs, de ses publics. Il s'agit de l'analyse ethnographique, j'en parle parce que je savais que tu parlerais du quantitatif, soit de l'observation située au plus près des pratiques, dont on a vu plusieurs exemples aujourd'hui, et conduite par des sociologues ou des anthropologues, et dont plusieurs exemples donc ont été donnés. Alors même que la justice est rendue le plus souvent, c'est pas vrai pour les mineurs par exemple, de manière publique, peu de sociologues ou d'anthropologues, si ce n'est par exemple Nicolas Herpin à la fin des années 70, avaient jusque-là observé en détail ces audiences, même si ça peut paraître surprenant. Alors même... et toi aussi, je sais.
J'ai dit peu.
Ah oui, voilà. Mais comme tu citais Nicolas Herpin...
Donc je te cite aussi, je le sais, je t'ai lu. Alors même que les avocats sont d'une des professions les plus visibles, hein, y compris dans les séries, les romans, très peu d'enquêtes se sont jusqu'ici intéressées à la manière dont ces auxiliaires de justice travaillent au quotidien, reçoivent leurs clients, préparent leurs plaidoiries, visitent leurs clients en prison. Peu de choses étaient réellement connues jusqu'à des travaux en cours, de la participation concrète des experts, des enquêteurs, des travailleurs sociaux à l'élaboration du dossier judiciaire ou des huissiers à l'exécution des décisions. Des activités centrales dans le fonctionnement de l'institution judiciaire, comme le travail des greffières, dont on a un peu parlé aujourd'hui, ou encore la participation de la police à la tenue des audiences, restent encore très mal connues. Loin d'être anecdotiques ou de simplement redoubler la connaissance qu'en ont déjà les acteurs de la justice, l'analyse sociologique et anthropologique de ces dispositifs, de ces relations, de ces événements que sont notamment les procès, constitue ainsi un véritable enjeu de connaissance pour nos sociétés. Ce qu'apporte aussi l'observation de la justice, et il y a dans la salle la première juge que j'ai observée alors que j'étais une toute jeune étudiante, ce qu'apporte aussi l'observation de la justice dans son fonctionnement comme dans ses grandes affaires, au-delà de la prise en compte si essentielle pour les sciences sociales de la dimension proprement constitutive de la légalité en société, est sans doute riche d'enseignements aujourd'hui pour la conduite de la politique judiciaire. Comment réformer l'accès au droit sans savoir quels sont les mécanismes concrets qui freinent ou facilitent le recours à l'avocat ou l'accès à l'information ? Comment analyser le sens et la portée des décisions judiciaires pour les justiciables sans les relier au contexte de l'audience et sans prendre en compte les décisions de première instance, généralement absentes de l'analyse juridique qui concerne la majorité, alors que ces décisions concernent la majorité des justiciables. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais je préfère en rester là en plaidant finalement pour que l'accès à la justice ne soit pas seulement facilité aux citoyens, mais aussi aux chercheurs et, je l'espère, dans un bénéfice réciproque.
De ces différents points de vue méthodologiques qui nous ont aussi permis d'appréhender les questionnements qui étaient les vôtres quant à la posture du chercheur par rapport à notre institution. Indépendance, association, observation, c'était également important pour nous d'avoir à l'esprit ces questions-là. Monsieur Éric Lucas, vous avez maintenant le rôle de clôturer cette journée.
Alors écoutez, comme il est tard, j'essaierai d'être bref pour tirer quelques conclusions de cette journée. C'est pas toujours simple de passer en dernier, donc j'essaierai d'être un peu différent de ce qui a été dit aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais ce soir, c'est finalement la grande question, c'est avons-nous eu raison de faire cette journée ? Ce soir, je suis très heureux d'être là parce que... Pourquoi ? Tout simplement parce que cette journée a eu lieu. On l'avait imaginé en octobre 2013, au cours du Conseil supérieur de la statistique et des études, et on espérait la tenir dans ce délai. Nous l'avons tenue. La question maintenant, c'est est-ce que nous avons eu raison de la tenir et est-ce que la relation entre les chercheurs et le monde de la justice peut progresser ? Alors, est-ce que nous avons eu raison de la tenir ? Là-dessus, je n'ai aucun doute. Pourquoi la tenir ? Je reprendrai les propos de la garde des Sceaux ce matin, propos que, humblement, moi, je partage totalement. La recherche... Les études en sciences sociales appuyées sur la statistique sont nécessaires pour comprendre la justice, la dimension sociale du droit, sa portée sociale, pour interroger les liens entre la justice et la société. C'est aussi pour faire reposer les politiques publiques sur le savoir et la connaissance, pour permettre aux citoyens de les comprendre en dépassant leur propre vécu, leurs émotions ou leur subjectivité. Je crois que nous pouvons tous adhérer à ce besoin. Et la journée d'aujourd'hui, à travers les différentes tables rondes, à mon avis, a montré son utilité. J'ai assisté ce matin à la première table ronde, j'ai assisté à celle de cet après-midi. La rencontre entre, si vous me passez cette expression, les opérationnels de la justice et les opérationnels de la recherche est fructueuse. Et elle a démontré l'intérêt de cette journée. Elle l'a démontré dans des débats concluants, dans des débats intéressants, riches, parfois vifs, ou animés. Et moi, j'ai trouvé que comment dirais-je, la variété des intervenants, c'est-à-dire des spécialités qui analysaient les métiers de la justice. Alors j'en oublierai peut-être, mais anthropologues, sociologues, juristes, spécialistes des sciences politiques, historiens, montrent que le regard peut être fragmenté par la spécialisation, mais au bout du compte, il arrive à dessiner quelque chose de cohérent à travers ces regards différents et à nous interroger, nous, monde de la justice, sur ce que nous faisons, notre métier, les attentes de la société, comment ce monde de la justice évolue par rapport à la société. Et il démontre en tout cas que la recherche et les opérationnels de la justice sont en lien constant, puisque j'ai entendu ce matin, vous l'avez dit tout à l'heure, que les directions, les directeurs et même l'inspection générale font appel aux chercheurs dans leurs travaux ou dans la mise en œuvre de leurs plans d'action réguliers. Ça a été dit ce matin, ça a été redit cet après-midi. On a vu dans les débats que sur les différents sujets qui sont abordés, famille, justice des mineurs, administration pénitentiaire, ces rapprochements, cette collaboration sont éminents. Le directeur des services judiciaires lui-même ce matin a indiqué qu'il ferait appel à des chercheurs. Donc au final, nous avons eu totalement raison d'organiser cette journée. Encore une fois, cela démontre que nos liens sont profonds et réguliers. Est-ce que, c'est la deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que la relation entre chercheurs et justice se suffit à travers cette journée? Je ne crois pas. Il faut que nous la nourrissions régulièrement par différents moyens. Alors, les moyens, c'est au ministère d'abord de les mettre en place à votre profit. C'est-à-dire que nous devons mettre à la disposition des chercheurs les sources et les données les plus pertinentes. Alors, quelles sources? Eh bien, les archives du ministère. Quand il s'agit de la chancellerie, c'est à la chancellerie de donner des autorisations. Quand il s'agit des dossiers juridictionnels, ce sont aux juridictions concernées d'être vos interlocuteurs. Mais j'ai demandé à mes services de préparer un vademécum de la recherche dans le domaine de la justice à destination des professionnels et des chercheurs pour faciliter cette collaboration. Pour ce qui est des données quantitatives, c'est le service statistique ministériel, c'est-à-dire la sous-direction de la statistique et des études, dont Benjamin Camus est à la tête et que je remercie pour son action quotidienne de grande qualité. Donc c'est cette sous-direction qui élabore les chiffres et qui doit les mettre à disposition. Des études thématiques vous sont proposées, c'est à travers la publication régulière d'Infostat, et puis aussi ces données existantes, thématiques, statistiques, peuvent vous être communiquées par le biais d'une convention. En 2013, 35 prestations ont été réalisées à la demande de chercheurs et la sous-direction des études contribue au développement de la recherche quantitative en accueillant un chercheur sous convention. Par ailleurs, et vous l'avez évoqué, à l'avenir, plusieurs séries de données statistiques détaillées seront consultables par le biais du Centre d'accès sécurisé aux données, le CASD, ce qui est déjà le cas pour les données sur les conseils de prud'homme qui sont fréquemment demandées. À terme, à terme, j'espère bientôt, dans le domaine pénal, ces données vont s'enrichir grâce à la mise en place d'un système d'information décisionnelle que nous baptisons le SID. C'est un système exigeant qui nous demande beaucoup de travail, mais que nous espérons mettre en place cet été dans sa première version. Voilà pour l'effort que nous faisons au profit du monde de la recherche pour la mise à disposition des données qui montrent que nous ne nous rencontrons pas seulement aujourd'hui. Mais cette mise à disposition, cette relation doit être améliorée. C'est-à-dire que le ministère doit encore mieux diffuser les résultats des travaux de recherche qu'il demande. Ces résultats et cette diffusion peuvent être encore augmentés. Je pense en interne aux écoles de formation qui sont bien naturellement des vecteurs privilégiés, notamment l'École nationale de la magistrature. Vous avez vu les cahiers de la justice qui ont été présentés pendant l'heure du déjeuner. C'en est une illustration. Mais je pense que, par exemple, les chefs de cour, les chefs de juridiction pourraient être associés plus étroitement aux travaux d'études du ministère en assistant, pour certains, au Conseil de la statistique et des études du ministère. Ça permettrait un meilleur retour et une meilleure diffusion dans le monde des juridictions. Par ailleurs, nous devons renforcer la diffusion des résultats de recherche sur des supports dématérialisés, accessibles à tous et en ligne. Ces articles, d'ailleurs, gagneraient à être traduits dans d'autres langues pour être encore plus diffusés et encore plus connus. Donc, je le redis, c'est avec un grand plaisir, moi, que je clôture cette journée. Je considère qu'elle a atteint son but. Je remercie tous ceux qui ont contribué, à commencer par le HESS, et c'est pour nous un très grand honneur d'avoir été, comment dirais-je, en partenariat avec vous durant cette journée. C'est une institution prestigieuse, la Mistadi ce matin, et je crois que nous sommes tous très fiers d'être avec vous tout au long de la journée et d'avoir pu nouer ce partenariat. Je remercie évidemment tous les intervenants du ministère ou scientifiques, chercheurs, universitaires. Je remercie tous ceux qui ont animé les tables rondes et qui ont eu le redoutable travail de canaliser les interventions et le temps. Je remercie évidemment la sous-direction de la statistique et des études qu'il a organisé, en particulier Benjamin Camus et Laetitia Brunin, le département de la communication du secrétariat général. Je vous remercie aussi tous ceux qui ont écouté tout au long de la journée, puisque vous démontrez par votre assistance et l'importance de ceux qui ont assisté à cette journée l'intérêt des thèmes que nous avons choisis. Ça montre que ça correspond à un vrai besoin et une vraie appétence. La dernière question qui se pose, c'est: y aura-t-il une deuxième journée? Écoutez, moi je le souhaite profondément, j'espère que vous le souhaitez aussi. En tout cas, c'est la proposition que je ferai à la ministre. Voilà, je vous remercie.